Alors bonjour à tous. Alors je dois vous avouer que quand j'ai découvert le sujet qu'avaient choisi nos sœurs pour faire leur présidence de culte, et c'était début août, donc ça fait une vingtaine de jours, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. Non, parce que le thème de ma prédication aujourd'hui, je l'ai commencé à le développer il y a plus de 4 mois, donc voilà. Et alors, c'est totalement raccord, comme diraient les jeunes. Voilà, parce que je voulais vous parler de la grandeur du Dieu créateur, mais aussi de la grandeur du Dieu rédempteur. Alors, écoutez, je voulais vous faire partager ce matin mon questionnement sur le pourquoi de l'infinie grandeur de la création, sur le fait que le Créateur crée un univers infini, donc hors de notre compréhension et appréhension du fait de notre humanité, qui enferme notre esprit et notre perception dans un monde limité au sens premier du terme, c'est-à-dire fini et dont les limites peuvent se définir et donc être compréhensibles par l'esprit et l'intelligence humaine. Alors la question que je ne peux m'empêcher de me poser est pourquoi le Dieu créateur, qui a fait l'homme à son image et l'a placé au-dessus de cette création pour gérer la terre, a fait aussi infiniment grand et complexe l'univers tout entier. Je vous apporterai ma conclusion, qui n'est que personnelle, après avoir un peu développé sur ce que nous disent quelques passages de l'Écriture sainte. Il se trouve que ces passages, bien sûr, nos sœurs les ont partiellement lus tout à l'heure. Nous commencerons par le psaume 19 de David. Alors, je ne sais pas si tu peux projeter. Voilà, il y a quelques images qui vont parler sûrement aussi, parce que Dieu nous a fait des yeux pour voir les merveilles de sa création. Et ce psaume de David nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Là, on a bien la notion de étendue. Alors, étendue, ce que nous pouvons comprendre, vu que c'est infini, je crois que nous avons beaucoup de mal. Et le psaume 8, verset 4 de David, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de feu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et un peu plus loin, dans les psaumes, le psaume 104. Alors nous ne connaissons pas l'auteur, mais... « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » Voilà comment David, le roi David et un autre auteur de psaumes percevaient le Dieu de l'univers. L'Éternel, celui qui est désigné en hébreu par le tétragramme YHWH, que l'on écrivait mais que l'on ne prononçait pas. Perception d'homme ayant écrit presque 3 millénaires avant nous, ayant une compréhension déjà si pertinente de l'infini divin, de la place particulière de l'homme dans la création, mais bien sûr sans les millénaires de découvertes scientifiques, liées aux capacités toutes spéciales dont l'homme fut doté par son Créateur. Mais bien des points évoqués dans ces portions de psaumes sont extrêmement porteurs de sens au vu de la science du 21e siècle, mais je reviendrai sur cela. Voyons maintenant la réponse de Dieu à Job, qui a longuement conversé avec lui dans sa détresse et son affliction. Job, chapitre 38. L'Éternel dit à Job du milieu de la tempête, et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint et rein, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? » Au verset 31, « Noues-tu les liens des Pléiades ? Où détaches-tu les cordages de l'Orion ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque ? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Job, un homme que Dieu qualifie lui-même d'intègre et droit, va devoir reconnaître « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. » Un éleveur extrêmement puissant que Job, qui possédait un troupeau, qui en nos temps d'élevage industriel, n'a rien envié aux plus grandes exploitations. Mais lui aussi avait la connaissance d'il y a plusieurs millénaires. Alors Dieu va lui indiquer que son intelligence et sa science ne sont pas à la mesure de l'infiniment grand et complexe de la création. L'homme créé à l'image de son Créateur, nommé comme gérant de cette création, va chercher à en percer les mystères depuis fort longtemps. Nous savons que les mages originaires d'Orient observaient le ciel au temps de Jésus et avaient découvert une nouvelle étoile qui leur indiquait la naissance du roi des Juifs, selon leurs propos même. Ils avaient reçu aussi, je pense, une révélation particulière pour comprendre la signification de cet événement. Nous avons là la mention d'observateurs astronomiques deux millénaires avant notre temps où le ciel est scruté en permanence par des systèmes extrêmement sophistiqués. Mais la science n'a pas toujours fait bon ménage avec l'Église et surtout avec ses chefs. Nous sommes le 22 juin 1633 dans le couvent dominicain de Santa Maria Supra Minerva à Rome. Un tribunal ecclésiastique est réuni pour juger un homme qui a osé publier un traité nommé « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », ouvrage qui valide la théorie de Copernic, plaçant le Soleil au centre de notre système et mettant donc la Terre en double rotation autour de ce dernier. Voici la sentence prononcée par ce tribunal. Il est paru à Florence un livre intitulé « Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et de Copernic » dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la terre et repos du soleil. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Et afin que ta grande faute ne demeure pas impunie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Cela nous fait sourire aujourd'hui. Mais souvent, n'avons-nous pas tendance à nous positionner comme ces juges du XVIIe siècle face à des découvertes scientifiques qui ne nous paraissent pas explicitement cadrées avec ce que nous dit le texte biblique. Ce texte, écrit par des hommes ayant la connaissance et les mots liés à leur temps, guidés par l'esprit, n'avait pas vocation à une révélation des lois régissant la création, mais à une révélation de la gloire et de la grandeur du Créateur, et de sa relation avec l'homme déchu. Galilée n'avait fait qu'observer la nature, et particulièrement l'infiniment grand, et par là même déduit ce que cette observation lui démontrait. Mais les instances supérieures de la toute-puissance Église catholique romaine ne pouvaient admettre qu'ils étaient embarqués sur une planète lancée à vive allure dans une double rotation autour de son étoile. Depuis, la physique de Newton nous a permis de comprendre les lois de la gravitation universelle. La science mettra à disposition de ses observateurs des outils de plus en plus puissants. Le progrès depuis la lunette utilisée par Galilée jusqu'au satellite Planck, dernier outil destiné à étudier le rayonnement fossile issu du tout début de la création, nommé par les scientifiques le Big Bang. Ces systèmes très sophistiqués et nés du génie humain sont là pour répondre à cette question qui revient sans cesse chez l'homme. Pourquoi, comment et quand ? Question existentielle qui le différencie indéniablement du reste du vivant. La recherche scientifique développée par les autres espèces vivantes sur Terre et auxquelles certains veulent nous apparenter restant à découvrir. Nous savons ce que la parole nous enseigne à ce sujet en Genèse 2. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors oui, cette dernière création divine, l'homme, est bien différente du reste du vivant sur lequel elle est appelée à dominer. Elle est à l'image du Dieu créateur. C'est pour cela qu'il va être doté de moyens intellectuels lui permettant de devenir lui aussi créateur de tout un tas d'objets et de systèmes de plus en plus complexes, lui facilitant le travail dans un monde touché par la catastrophe universelle de la chute, du péché et de la sentence qui s'y attache. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Création limitée, et excluant ce qui reste l'apanage exclusif de Dieu, du Dieu créateur, la vie. Si l'homme est capable d'envoyer sur Mars à 225 millions de kilomètres de notre Terre des engins qui se posent à quelques mètres de précision, il est incapable de créer à partir des constituants de base un simple brin d'herbe qui est constitué d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'une pincée de sels minéraux. Le souffle de vie est une prérogative divine. Même si l'homme bricole autour de la vie et essaye de modifier le vivant, c'est ce qui est un des grands problèmes éthiques de notre siècle. La supériorité intellectuelle de l'humain sur le reste de la création n'étant plus à démontrer, il reste par contre la grande question de son utilisation. Souvent, les grandes découvertes ont été utilisées au cours de l'histoire de l'humanité par l'homme contre ses semblables. La liste en est longue et assez effrayante. Elle apporte la preuve de l'état moral de l'homme ayant rompu sa relation avec son Créateur et éloigné de ce dernier sous la condamnation consécutive à sa chute. Mais son intelligence façonne aussi, au travers de la découverte des lois régissant la création, notre vie quotidienne pour faciliter cette dernière. Le siècle dernier a été un siècle fécond en la matière et de mise en application pratique de ces découvertes. Nous ne pouvons revenir en arrière et nous passer de cette énergie qui remplace les efforts épuisants rythmant les journées de nos aïeux, renoncer à la vitesse de nos déplacements et à l'accès à une communication instantanée et mondiale. Utilisateurs de Skype nous permettant de voir et d'entendre notre famille distante de 9000 km, nous profitons des outils nés du progrès technique. Le développement de la connaissance s'est accompagné, chez certains scientifiques, d'un rejet de l'idée d'une création ordonnée et dirigée par une puissance infiniment supérieure, Dieu. Alors, aidé en cela par certaines positions obscurantistes et bornées de quelques responsables religieux, ils se sont créés un nouveau Dieu nommé Hasard. La subtile complexité de la création de l'infiniment grand à l'infiniment petit ne serait que le fruit d'une succession de faits issus du hasard sans aucune direction ni volonté consciente. Il faut une très grande dose d'optimisme et de mauvaise foi pour admettre cela. La recherche du sens, du but, de la finalité de notre univers a hanté les grands chercheurs du XXe siècle en particulier. Certains ont fait le choix, comme le biologiste Jacques Monod, d'exclure Dieu de leurs théories et de leurs hypothèses. Il développera ses thèses nihilistes via l'ouvrage « Le hasard et la nécessité ». Mais beaucoup de grands physiciens, en particulier, chercheront au travers de leurs études à percer le secret de cette intention créatrice mise en évidence par l'extraordinaire cohérence et précision des multiples lois qui régissent l'univers. Comment ne pas évoquer Albert Einstein ? À qui une de ses étudiantes, lors d'un congrès qui se tenait à l'université de Berlin en 1920, a posé cette question ? Maître, que cherchez-vous donc dans vos équations ? Einstein lui a répondu, « Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel ou tel élément. Je veux connaître la pensée de Dieu, le reste n'est que détail. » Cette question hantera bien des cosmologistes du XXe siècle. La cosmologie étant la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Alors pas mal de ces scientifiques ne pourront que constater au fil de l'avancée des connaissances que la précision des lois régissant notre univers est telle que l'hypothèse d'une création née du hasard est nulle et n'aboutit qu'à vouloir se cacher d'une réalité éclatante. Pour un peu entrer dans l'infini de cet univers, il nous faut quelques chiffres qui, restant très vertigineux, nous aident à comprendre mon propos. Par une nuit claire, nous pouvons, comme Dieu le dit à Abraham, et après l'avoir conduit dehors, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Non, nous ne pouvons les compter, car nous n'avons qu'une vue très partielle et limitée. Un seul peut le faire, selon le psaume 147. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre étoile, le soleil, est située au sein d'une galaxie qui compte entre 200 000 et 400 millions d'étoiles, 400 milliards d'étoiles. La taille de cette galaxie ne se mesure pas en kilomètres, distance que nous appréhendons bien, mais en années-lumière, soit la distance parcourue en une année par la lumière dont la vitesse étant une des constantes de l'univers, 299 792 km par seconde. Mais notre galaxie a une taille d'environ 100 000 années-lumière. L'univers observé par les télescopes modernes amène les scientifiques au chiffre approximatif de 2000 milliards de galaxies dans un univers en expansion continue. Alors oui, nous pourrons bien constater que nous ne pouvons compter et comprendre l'infinie création divine. Cela nous rappelle aussi l'extrême brièveté de notre existence terrestre à l'échelle du temps et la relativité de notre perception de cet univers. Nous faisons partie intégrante du temps et l'image que nous percevons ce soir en regardant le ciel n'est qu'une image temporelle. Une petite explication s'impose. Les étoiles, source extraordinaire d'énergie et donc de lumière grâce à la fusion nucléaire qui les caractérise, meurent aussi, mais leur lumière voyageant à la vitesse énoncée plus avant, nous continuons à les voir des milliers d'années après leur disparition, pour peu qu'elles soient à quelques milliers d'années-lumière de nous. Nous nous trouvons ramenés à notre échelle comme Job. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Notre vision du monde créée donc bien partielle et temporelle. Mais Dieu a voulu parler à l'homme placé au sommet de la création par le moyen de celle-ci. Lui parler de son infinie grandeur, de son infinie puissance et se révéler à lui parce que son observation attentive et son intelligence vont lui faire comprendre de ce Dieu créateur. Alors nous pouvons revenir à ce que le psalmiste dans son langage poétique nous confie. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un drapeau. Ces versets m'ont rappelé un événement qui s'est produit lors d'un colloque réunissant le gratin des physiciens à la Société américaine de physique à Washington. Nous sommes le 23 avril 1992. Le physicien George Smoot, qui recevra le prix Nobel en 2006 pour ses travaux, va annoncer une découverte sur laquelle il a travaillé pendant 15 ans. Il est un des pères du satellite Kobe, dédié à l'observation des rayonnements émis lors de l'instant initial de la création. Il dit « Nous avons observé les plus anciennes structures jamais vues dans l'univers, à peine 380 000 ans après le Big Bang. Il s'agit des germes primordiaux des structures actuelles comme les galaxies ou les amas de galaxies. Ce sont les plis dans la trame de l'espace-temps, reste de la période de la création. Pris de vertige devant ces images, impensables venues du fond du temps, de l'espace, ces détails lumineux datant de la création de l'univers, George Smoot lâche cette phrase devant ce parterre scientifique, ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de soucis après. Pour les esprits religieux, c'est comme voir le visage de Dieu. Cette expression imagée m'a fait penser à Dieu qui s'enveloppe de lumière comme d'un manteau et qui étend les cieux comme un drapeau. Alors oui, j'en conclus que Dieu a voulu émerveiller l'homme. Observateur de cette création infiniment grande, infiniment complexe, infiniment belle, et qu'il parle à cet observateur de sa grandeur, de sa puissance et de sa sagesse au travers de cela. Cet infini replace l'homme à sa juste place, à sa dimension, à sa temporalité, face au Créateur. Le but du message délivré par cet émerveillement n'est-il pas un témoignage de la gloire de Dieu ? Oui. Et il est universel, il transcende toutes les cultures, les origines. Même l'homme non atteint par notre civilisation, isolé dans sa forêt ou sur son île, est l'observateur et le témoin de ce message de la gloire du Dieu de l'univers. Mais il y a un autre message que nous sommes chargés de transmettre aujourd'hui à nos contemporains, et qui est pour nous un autrement plus grand sujet d'émerveillement. C'est que ce Dieu créateur, omniscient, omnipotent, est venu sur cette terre comme un petit enfant. Il est venu pour marcher et vivre au milieu des hommes. Il a donné sa vie pour régler une fois pour toutes la dette du péché qui nous privait de la relation avec Dieu. Nous pouvons lire dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. L'apôtre Jean commence son évangile ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Puis au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quelle belle affirmation que ce début d'un évangile qui nous fournit la clé du mystère de Jésus-Christ, le Dieu créateur, la parole du mot grec logos, incarnée en la personne de Jésus-Christ, et celui qui vient conformément à toute la prophétie, le concernant dans la lignée de David, né à Bethléem dans la plus totale humilité. Nous connaissons l'accueil que va lui réserver son peuple malgré la puissance divine manifestée tout au long de son ministère par de nombreuses guérisons et même des résurrections. Mais pour nous et pour tous ceux qui l'ont reconnu et accepté pour ce qu'il est, le Dieu créateur, mais aussi le Dieu rédempteur, qui est allé jusqu'à la mort et à la séparation d'avec son Père dans les heures sombres de l'expiation des péchés de l'humanité, il a un message si extraordinaire. Nous sommes placés hors de notre condition, de pécheur condamné, vivant à toujours avec lui. Il est notre frère et Dieu nous place dans la part de co-héritier de Christ. Alors, n'avons-nous pas des sujets d'émerveillement dans ce temps de grande désillusion et d'angoisse qui saisissent nos contemporains? Je crois que nous sommes appelés à faire silence dans le vacarme de ce monde agité, à nous déconnecter parfois du flot d'informations anxiogènes qui nous envahissent, et à nous poser pour contempler, pour nous laisser émerveiller par la grandeur, la puissance, la sagesse, l'amour parfait, les promesses de notre Dieu, et aussi, bien sûr, par notre héritage céleste. Nous lisons dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre précise les bénédictions et la position qui nous sont faites en Christ, liées à notre part comme enfants de Dieu, par notre espérance en lui. Nous lisons en Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Cette promesse n'exclut pas, bien sûr, les souffrances du temps présent, mais elle nous projette dans l'éternité glorieuse en la présence de Christ au sein de ce monde nouveau, où il nous est dit, à la fin, Dieu est tout en tous. Mais nous pouvons déjà louer ici-bas sa gloire, sa grandeur, sa puissance et son plan d'amour manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que je souhaite pour tous ceux ici présents. Merci de votre écoute.